Oui, bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Donc bienvenue pour cette séance des questions.
Monsieur le député Jean-Pierre Michler.
Et c'est donc tout d'abord Jean-Pierre Michler, député UDC, qui posera la première question.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, une nouvelle période difficile s'annonce pour la caisse de pension. La recapitalisation acceptée en 2013 à hauteur de 74 millions n'aura donc pas suffi. À l'époque, j'étais de ceux qui pensaient que les mesures proposées étaient irréalisables et nettement insuffisantes, raison pour laquelle l'UDC avait refusé cet objet. Cet exercice consistait en fait à remplir un panier percé sans se préoccuper de colmater les fuites. En 2013, toutes les propositions de l'UDC avaient été refusées. D'ailleurs, je cite ici les propositions ou les propos du ministre de l'époque. Les propositions de l'UDC arrivent beaucoup trop tard. Fin de citation. Malheureusement, nos propositions n'avaient pas trop de retard, mais elles avaient 5 ans d'avance. En regard des caisses de pension privées qui affichent des situations financières saines, avec des degrés de couverture nettement au-dessus de 100%, on peut légitimement se poser la question, ne faudrait-il pas privatiser la caisse de pension du Jura ? Je vous remercie de la réponse.
C'est donc
merci,
le
monsieur le député. Pour la réponse, je passe la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
Oui, madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, les mesures qui avaient été décidées par votre Parlement en 2013 et entrées en vigueur en 2014, attestées par des experts reconnus en matière de prévoyance professionnelle, nous indiquaient clairement que le chemin de croissance qu'il était possible de mettre en œuvre, parce que justement c'est une caisse de prévoyance publique avec une possibilité de sous-couverture puisqu'il y a garantie de l'État et des employeurs affiliés, ces mesures que vous avez décidées en toute connaissance de cause étaient suffisantes aux yeux des experts. Entre-temps, il s'est passé des choses au niveau de la bourse en particulier, au niveau de l'abandon du taux de change plancher du franc suisse par rapport à l'euro et au dollar. Et tous ces éléments-là ont fait que les hypothèses de travail mises en place et posées en 2013 et avant, eh bien, ces mêmes experts nous disent aujourd'hui votre espérance de rendement n'est plus celle qui était prévue en 2013, donc il faut améliorer la situation, non pas pour régler le passé, monsieur le député, mais pour anticiper sur l'avenir. Et si le conseil d'administration, selon ses compétences et de par la loi, a formulé des propositions et que le gouvernement a souhaité s'y associer pour que ces mesures soient équilibrées, eh bien, tout simplement, monsieur le député, c'est justement pour anticiper l'avenir. Maintenant, votre question, faut-il privatiser la caisse de pension de l'État jurassien ? Une question intéressante. Si vous trouvez les quelques centaines de millions qui sont nécessaires pour ramener à sa couverture totale avant privatisation, c'est une question que nous pourrons examiner. Mais de ce côté-là, j'attends vos propositions pour ce financement complémentaire, sachant que nous avons fait avec les moyens que nous avons pour éviter justement de tout investir dans ce projet et permettre à l'État jurassien de continuer d'investir ailleurs dans des projets politiques futurs qui permettront à ce canton de se développer et surtout de pouvoir supporter les charges supplémentaires que votre proposition pourrait générer. Voilà, monsieur le député, cette réflexion peut être menée, mais il faudrait un peu l'étayer, pas simplement la lancer comme ça sur la place publique sans argumentaire particulier.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Michler est satisfait. Pour la deuxième question orale, je passe la parole à monsieur Vincent Hénin.
Vincent Hénin, député PCSI de Montfaucon, qui arrive à la tribune.
Nouvelle annonce de 8 licenciements chez Maurice Lacroix à Seignelay-Légier. On peut craindre le pire pour ce fleuron de l'horlogerie jurassienne et ses employés. Cette nouvelle annonce de licenciement qui suit celle de cet automne démontre les actuels problèmes rencontrés par la firme DKSH, propriétaire de la marque depuis 2011 et active principalement dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. Des mesures alarmantes qui suivent la fermeture définitive de la manufacture des Franches-Montagnes à Montfaucon. En 2015, DKSH avait décidé de prendre des mesures de restructuration et de céder ce segment. Il avait également assuré que cette opération n'aurait aucun effet négatif sur les salariés et qu'aucun licenciement n'était prévu. Jürg Wohl, le directeur général et président du conseil d'administration, avait relevé « Nous sommes arrivés à la conclusion que DKSH, en tant que société spécialisée dans les services de distribution, ne représente pas le meilleur propriétaire pour une activité manufacturière. Or, à ce jour, DKSH est toujours propriétaire de la marque Maurice Lacroix et ses errements mettent gravement en danger la pérennité de l'entreprise Franc-Montagnard. DKSH, de son propre aveu, ne semblant pas être en mesure d'assurer l'avenir de Maurice Lacroix, le gouvernement peut-il nous informer s'il entend prendre parole auprès du groupe zurichois afin que ce dernier se positionne rapidement et clairement sur ses intentions futures ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse, je passe la parole à monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, ministre en charge de l'économie.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs, chers collègues, les difficultés que DKSA a rencontrées ces dernières années sont connues du gouvernement. Vous l'avez mentionné, monsieur le député, déjà en été 2015, le groupe a rencontré l'ancien chef du département de l'économie et le maire de Seignelay-Légier pour les informer justement des intentions de vendre ses activités horlogères. Bien sûr, ceci avant que cette information soit annoncée plus largement. Une fois encore, les licenciements survenus chez Maurice Lacroix et à la manufacture des Franches-Montagnes ont été... le groupe a informé le gouvernement de ses intentions. À chaque fois, ils ont été accompagnés par le service de l'économie et les ORP. Toutes les années, les autorités jurassiennes rencontrent le directeur de Maurice Lacroix, notamment dans le cadre de Baselworld. Il en sera évidemment ainsi cette année encore. Lors de ces rencontres, justement, les membres de la délégation jurassienne reçoivent des informations de première main sur l'entreprise et la marche des affaires, notamment également des intentions du groupe DKSH. La question du repreneur, monsieur le député, est effectivement toujours d'actualité, mais DKSH a précisé à maintes reprises qu'il connaît la valeur de la marque et qu'elle ne souhaite pas la brader. Et c'est certainement pour ça que, pour l'instant, aucun des repreneurs intéressés n'a certainement fait une offre suffisante pour que DKSH l'accepte. Aucune séance, pour l'instant, avec le groupe n'est prévue. Par contre, vu l'évolution des marchés horlogers et selon les informations que nous recevrons à Baselworld, nous apprécierons la situation et nous examinerons si une rencontre avec DKSH est nécessaire.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député, Vincent Hénin est partiellement satisfait. Pour la troisième question orale, je passe la parole à madame la députée Erika Henkin.
Erika Henkin, députée des Verts et CS Pop de Courgenay.
Madame la Présidente, mesdames, messieurs, chers collègues, que dire quand le directeur de l'ATS, Marcus Schwab, considère que les prestations contre financement fournies par l'ATS à la Confédération ne sont pas assez rentables. L'ATS est l'Agence nationale suisse d'information. Elle diffuse 24 heures sur 24 des informations sur l'actualité politique, économique, sociale, culturelle et sportive dans les trois langues nationales. Lundi soir, donc avant-hier, une grève a été décidée lors d'une assemblée du personnel. En effet, environ 36 suppressions de postes ont été décidées par la direction. Elles concernent exclusivement des postes de journalistes. Toutes les rubriques qui fournissent des informations dans les trois langues nationales sont touchées. Cette décision pourrait entraîner une réduction importante des prestations journalistiques de l'Agence télégraphique suisse, qui jouit d'une longue tradition et aurait de graves conséquences sur la diffusion de l'information. La rédaction de l'ATS est choquée par ce démantèlement. Il y a le risque que l'ATS ne puisse plus proposer un service de qualité dans les trois langues. Ma question au gouvernement est la suivante. Devant la nécessité de maintenir une information de qualité, en français et en italien également, le gouvernement a-t-il l'intention d'intervenir auprès de la direction afin de soutenir le retour au dialogue ainsi que le maintien de ses postes de travail ? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci Madame la députée. Pour la réponse, je passe la parole au président du gouvernement, Monsieur David Herré.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, effectivement, Madame la députée, le gouvernement est très sensible à la situation actuelle qui se passe à l'ATS avec une grève, sachant que le gouvernement est également inquiet car il considère l'ATS comme un vecteur important pour une diffusion de médias qui soit la meilleure possible, qui soit de qualité, qui tienne compte également de toutes les régions linguistiques de Suisse. Et dans cette optique-là, il y a une discussion, je ne vous le cache pas, hier, en séance du gouvernement, pour savoir quelle démarche nous pouvions adopter en vue de venir finalement en soutien à cette branche des médias qui semble quand même en difficulté actuellement. Et le gouvernement a donc, n'a pas retenu d'entreprendre une démarche seule envers l'ATS ou envers le Conseil fédéral ou envers quiconque. Le gouvernement a préféré partir dans une démarche coordonnée avec d'autres cantons suisses. Et dans ce cadre-là, le gouvernement va donc prendre contact à la fois avec la conférence des gouvernements de Suisse occidentale, la CGSO, et également avec la conférence des gouvernements suisses, la CDC, dans l'optique d'avoir une démarche coordonnée d'une partie des cantons, voire même de tous les cantons suisses, pour essayer de trouver une solution la meilleure possible à cette situation et retrouver finalement une qualité de médias comme nous souhaitons l'avoir et comme c'est prévu d'ailleurs par l'ordonnance, qui octroie d'ailleurs chaque année 2 millions de francs à l'ATS pour qu'elle puisse justement proposer un support médiatique aux autres médias de qualité comme nous le souhaitons.
Merci Monsieur le Président. Votre appréciation Madame la députée ? Madame la députée Erika Henkin est satisfaite. Pour la quatrième question orale, je passe la parole à Monsieur Vincent Eschmann.
Vincent Eschmann, député PDC de Vic, qui va donc poser la quatrième question orale de cette séance.
Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, Aglo, les yeux pour pleurer. Le Jura en est resté bouche bée. Le 18 janvier dernier, le Conseil fédéral a mis en consultation son avant-projet de financement des agglomérations de troisième génération. Alors que 32 projets sur 37 sont retenus, le seul qui concerne le Jura est écarté. Depuis plusieurs années, on demande aux communes de participer au financement de l'agglo, mais de ronger son frein ou leur frein quant aux réalisations en attendant la manne fédérale. Et patatras, ce sera niet. À la question posée, faut-il en déduire que le dossier jurassien n'était pas suffisamment fourni, travaillé ? Il nous a été donné d'entendre la réponse suivante par le chef du SDT. Il faut faire preuve d'humilité et reconnaître que notre projet a des lacunes. Comment est-il possible qu'un projet à un tel niveau décisionnel, celui du département, puisse présenter des lacunes ? Aussi, je demande au gouvernement comment, au-delà de l'examen approfondi et au-delà des annonces de rencontres à Berne, il compte faire revenir le Conseil fédéral sur sa décision, inaudible pour les jurassiennes et jurassiens et catastrophique pour notre canton. Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse, je passe la parole à monsieur le ministre David Herré.
Voilà, monsieur le député, votre question est effectivement d'actualité et préoccupe non seulement le gouvernement, mais également l'agglomération, également dans une certaine mesure le Parlement, puisque ces trois acteurs sont finalement des clés de l'agglomération, puisque l'agglomération est financée non seulement par la Confédération, mais également par l'agglo et également par le canton, donc au travers des budgets qui sont votés par le Parlement. Concernant les propos qui ont été tenus par le chef de service, effectivement, ils ont peut-être été mal compris, mais il a retranscrit l'information que nous avons reçue du Conseil fédéral, qui estimait que le projet donc présentait certaines lacunes, et il les citait au niveau de trois paramètres. La première, c'est qu'aux yeux du Conseil fédéral, le projet était trop général et manquait de concrétisation. La deuxième, c'est qu'il était estimé donc que le compte-rendu de mise en œuvre présentait des lacunes au niveau de la qualité de la cohérence. Et le troisième élément, c'est que la mise en œuvre des mesures des programmes AGLO 1 et 2 était insuffisamment réalisée, tant au niveau de l'urbanisation qu'au niveau des infrastructures. Évidemment que nous avons pris note de cette réponse avec une certaine interrogation. Le service du développement territorial a immédiatement pris contact avec la commune et l'agglo de Delémont pour pouvoir finalement prendre des mesures rapidement pour rétablir une partie, voire tous les projets du programme 3 dans le message qui sera transmis aux chambres fédérales. Nous sommes actuellement en phase de consultation, donc bien évidemment que tout est encore possible et nous travaillons étroitement, comme je l'ai dit, avec l'agglomération. Nous avons ici également déjà pris des contacts avec nos 4 élus aux chambres fédérales. Des contacts bilatéraux ont également été pris avec d'autres conseillers d'État de cantons voisins pour également avoir un appui en vue de faire réinscrire le projet phase 3 ou en tout cas une partie de celui-ci. En parallèle, une démarche de réflexion est engagée avec la commune de Delémont et l'agglo pour voir finalement dans quelle mesure on pourrait peut-être prioriser certains projets de la phase 3, expliquer pourquoi certains projets des phases 1 et 2 n'ont pas été réalisés ou ont été abandonnés. Et ceci en vue d'une séance qui aura lieu auprès de l'Office fédéral du développement territorial, à laquelle participeront notamment le maire de la capitale, le ministre que je suis et différentes personnes en lien avec ce dossier. Et nous essayerons au travers de cette séance ou à l'issue de cette séance de faire réinscrire le programme 3 ou en tout cas une partie de celui-ci. Et je vous informe également que nous devrons analyser en fonction de nos requêtes si les montants inscrits à la PFI sont suffisants. Et le cas échéant, nous devrons peut-être revenir auprès du Parlement pour demander des crédits supplémentaires ou en tout cas une modification du PFI. Donc la balle sera aussi peut-être à un moment donné dans le camp du Parlement qui devra faire un arbitrage pour savoir est-ce que nous mettons plus de moyens dans l'agglo ou pas. Et ce sera donc un travail d'équipe entre le Parlement, le gouvernement et l'agglomération.
Merci Monsieur le ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Vincent Eschmann est satisfait. Pour la 5e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Nicolas Maître.
Nicolas Maître, député PS d'Épouvillers.
Erreur de casting ou problème de gouvernance. Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, dans le courant de la semaine dernière, la division du CGF ont été informées du départ de l'actuel directeur ad intérim. À ce stade, je m'interroge quant à l'état de la réorganisation du Centre jurassien d'enseignement et de formation et du service de la formation, faisant suite à la motion urgente acceptée en 2015 par le Parlement. Les économies substantielles que prévoyait la fusion de ces deux services se font encore largement attendre. Et en tout état de cause, les changements successifs à la tête de cette restructuration de ces deux services me laissent dubitatif. Depuis 2 ans, ce ne sont pas moins de 3 personnes qui se sont succédées aux commandes du projet. Le dernier en date étant M. Guy Jubin, qui rejoindra sous peu le secteur privé. Ces départs pourraient faire penser à des erreurs de casting, mais sont, à mon sens, surtout dues à un problème de gouvernance ministérielle. Comment une structure peut-elle fusionner, fonctionner correctement en changeant tous les 6 mois de chef de service? Sans compter au passage le doute que cela jette dans l'esprit des directeurs des divisions, du collège des enseignants et des élèves de ces divisions. Tous ces changements nuisent à l'harmonie nécessaire qui doit favoriser le développement de la mission première des écoles, à savoir former, et vont aujourd'hui clairement à l'inverse de la décision prise par les députés. Bien entendu, une période d'adaptation est toujours nécessaire et admise afin de prendre ses marques et un certain rythme de croisière. Mais les conditions ad intérim sont-elles adaptées et combien de temps pourrait encore durer cette situation? D'où ma question, accessoirement, comment le gouvernement explique-t-il ce nouveau départ à la tête du CGF? Et n'estime-t-il pas qu'il porte une large part de responsabilité dans celle-ci et prioritairement, dans quel délai le gouvernement pense-t-il terminer l'analyse et mettre en œuvre la fusion de ces deux services qui sont le SFO et le CGF? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Martial Courtais.
Martial Courtais, ministre en charge de la formation.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député, vous venez à cette tribune avec des yakas, vous venez donner la leçon. Vous-même, vous êtes dans un exécutif, vous savez toutes les difficultés qui se présentent dans l'exercice de cette fonction. Vous savez comme il faut faire acte de tous les paramètres et vous savez qu'ils sont nombreux, et notamment puisqu'ils viennent à la base de ce Parlement. Mais ceci dit, je vais essayer de vous donner des éléments d'information qui pourraient je l'espère, vous rassurer. Car rassuré pour ma part, je le suis. Par rapport à la direction, vous évoquez trois changements. Il faut préciser qu'il y a eu deux directeurs dans la période que vous évoquez, c'est-à-dire M. Girardin, qui, à cause de son entreprise, puisqu'il y avait une entreprise en parallèle, donc ne pouvait pas rester. M. Girardin a fait un excellent travail. Il a été nommé avant mon arrivée et il avait un contrat à durée déterminée. Il était très clair qu'il n'allait pas rester. C'était ancré comme ça, c'était pour un remplacement. Nous avons donc nommé effectivement M. Joubin, comme vous le disiez, et M. Joubin, effectivement, a préféré retourner dans l'industrie d'où il venait. Il a saisi une opportunité qui lui a été offerte d'occuper un poste à responsabilité que je qualifierais de moins exposé. Un troisième nom, c'est M. Scherer, qui est directeur du lycée, qui, lui, n'a effectué qu'un remplacement pour faire le lien entre la direction du CGF et le département en attendant l'arrivée de M. Joubin. Ceci étant dit, peut-être dans ce qui nous intéresse le plus, en parlant de cette fusion CGF-SFO, sachez que le projet a été soumis au gouvernement fin 2017 avec un nouvel organigramme, donc le dossier avance de façon tout à fait idoine, et le passage au Parlement est donc prévu ces prochains mois. Donc vous serez nantis de ce dossier d'ici très peu de temps. À ce stade, je peux déjà affirmer que la fusion et toute la réflexion qui a déjà eu lieu jusqu'à maintenant apportera des changements positifs, j'en suis convaincu. Par exemple, la création d'un poste de responsable informatique afin de coordonner tout le domaine numérique dans les écoles du CGF. J'aimerais terminer en donnant une information, et je profite d'être à la tribune pour le faire. Le gouvernement a nommé hier le remplaçant de M. Joubin, donc nommé une personne à l'intérim jusqu'à la fusion. Alors là, on n'aura pas de surprise, il est nommé à l'intérim jusqu'à la fusion, et à ce moment-là, les mises au concours seront refaites jusqu'à la fusion prévue le 1er janvier 2019. Il s'agit de M. Jean-Pascal Lutti, habitant à Delémont. M. Lutti est actuellement chef de division et vice-directeur au CEFRI. CEFRI, donc le secrétariat d'État à la formation et à la recherche et à l'innovation. Nous lui souhaitons donc la bienvenue dans l'administration jurassienne, et je profite également de ce propos pour dire un grand merci à Guy Joubin, qui a fait un très bon travail jusque-là dans son CDD au CGF. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Nicolas Maître n'est pas satisfait. Pour la sixième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Alain Lachat.
Alain Lachat, député radical de Frugy-et-Court.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, depuis 2018, plus précisément les 2 et 3 janvier dernier, une tempête appelée Eleanor a traversé la Suisse avec des vents allant jusqu'à 180 km/h sur l'arc jurassien. Même si celle-ci s'est montrée moins intense que la célèbre tempête Lothar en fin d'année 1999, des dégâts importants ont été constatés dans les forêts jurassiennes. Des centaines d'arbres ou plantations se sont couchés ou cassés, ce qui provoquera plusieurs milliers de mètres cubes de bois valorisés ou au plus à éliminer. Les responsables des triages forestiers, gardes et ingénieurs dans les trois districts sont à pied d'œuvre pour évaluer les conséquences économiques, environnementales et chercher les meilleures solutions pour revenir à une situation normale. En 2000, après Lothar, des aides financières aussi bien de la part de la Confédération que des cantons ont été mises en place pour soutenir les propriétaires forestiers, dont les communes. Toutefois, la tempête Eleanor, l'Office fédéral de l'environnement, dans son communiqué du 18 janvier, indique que la Confédération ne débloquera pas de moyens supplémentaires. D'où ma question au gouvernement. Les aides financières cantonales prévues au budget annuel combinées aux contributions fédérales qui ne seront pas augmentées suffiront-elles à indemniser l'ensemble des propriétaires lésés? Sinon, le gouvernement tente-t-il débloquer un crédit supplémentaire? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre en charge de l'Environnement.
Monsieur le député, effectivement, la tempête Eleanor a provoqué pour environ 30 000 mètres cubes de dégâts dans nos forêts jurassiennes, ce qui représente environ le 5e ou le 20% de l'exploitation annuelle des forêts jurassiennes. C'est donc, pour comparaison, un peu pour mettre une petite touche quand même positive, c'est moins de 10% des dégâts qui avaient été causés par Lothar à l'époque. Mais c'est quand même des dégâts qui restent et qui doivent être maintenant traités. Au niveau suisse, il y a eu 1 300 000 mètres cubes de bois qui ont été touchés par cette tempête. Et ça représente, là, sur un total, au niveau suisse, de 4,5 millions de mètres cubes. Donc, effectivement, vous l'avez dit, l'Office fédéral de l'environnement n'a pas déclaré cette tempête comme catastrophe d'importance nationale, et n'a donc libéré aucun moyen pour venir en aide aux propriétaires forestiers. Par contre, au niveau de l'État, il existe effectivement une subvention pour venir en aide aux propriétaires dans des cas où, l'exploitation de ces arbres endommagés serait déficitaire. Et je ne peux pas répondre directement à votre question, puisque l'Office de l'Environnement est en train d'étudier actuellement les besoins qui sont nécessaires en termes de finances, de subventionnement pour venir en aide aux propriétaires. Et ceci en vue d'une éventuelle discussion politique pour savoir est-ce que nous devons augmenter l'enveloppe ou pas. Et suite à cette analyse qui sera faite dans les prochaines semaines, et un éventuel crédit supplémentaire sera discuté et peut-être que ce sera un thème qui reviendra au travers de la Commission de l'Environnement jusqu'au Parlement. Mais pour le moment, nous sommes en train d'analyser les besoins et voir l'opportunité d'augmenter ou pas l'enveloppe.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Alain Lachat est satisfait. Pour la septième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Raoul Yagui.
Raoul Yagui, anciennement donc député PDC, qui siège désormais comme député indépendant.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, le gouvernement a communiqué récemment vouloir soutenir les médias en appelant au rejet de l'initiative Nobilag. Un bon signal, mais peut-être insuffisant. Le gouvernement serait-il prêt à mettre des moyens financiers pour aider nos médias régionaux, radio, journaux, TV, en cas d'acceptation de cette initiative néfaste pour eux et donc pour une information de qualité et indépendante dans notre canton? Merci de votre réponse.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse, la parole est donnée au président du gouvernement, Monsieur David Herré.
Voilà, Monsieur le député, effectivement, le gouvernement jurassien a pris position de façon claire pour appeler au rejet de l'initiative Nobilag, qui met en péril non seulement les médias jurassiens, mais les médias de la Suisse en entier, qui met en péril également la diversité des médias au niveau linguistique, qui pourrait, si elle est acceptée, déboucher sur une absorption de tous les médias suisses par des médias français, allemands, autrichiens, voire italiens pour le Tessin. Et donc, effectivement, le gouvernement s'est engagé dans la campagne, mais n'a pas mis de moyens financiers, puisque ce n'est pas une pratique habituelle du gouvernement que de mettre des moyens financiers dans des campagnes. On a déjà vu que, par le passé, lorsque les États s'impliquent dans les campagnes financièrement, cela peut être sujet à recours et cela peut être sujet à interprétation délicate. Donc non, le gouvernement jurassien n'a pas prévu de mettre de moyens dans cette campagne, Monsieur le député.
Merci, Monsieur le Président. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Raoul Yagui n'est pas satisfait. Pour la huitième question orale, je passe la parole à Monsieur le député Lionel Montavon.
Lionel Montavon, élu UDC de Courcelon.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, un événement s'est passé tout récemment, soit le 19 janvier dernier, à Develier. Parti de ce village, qui se situe à 4 km de Delémont, un groupe de marcheurs de la région se trouvait alors à la hauteur de la ferme Scheurère, soit à quelques 5 minutes à pied de la route principale, quand une de ces personnes a été prise d'un malaise. La centrale 144 a donc été immédiatement avisée par téléphone. Là où un frisson va nous parcourir l'échine, à toutes et tous réside dans le temps d'intervention. Accrochez-vous bien, chers collègues, l'ambulance est arrivée sur place 45 minutes après l'appel passé au 144. Une fois arrivée sur place, et malgré une rapide et efficace intervention des ambulanciers, ces derniers devaient constater que l'infortuné marcheur devait être pris en charge par la Réga. L'atterrissage de l'hélicoptère intervenait alors 20 minutes plus tard. Alors que nous débattions encore sur la question de l'externalisation de la case du 144, le gouvernement nous assurait que nous n'avions rien à craindre en matière de temps d'intervention. Ma question est donc la suivante. Le gouvernement s'assure-t-il que la chaîne d'intervention sanitaire d'urgence est bel et bien conforme à ce qu'il annonçait à cette tribune en matière de temps d'intervention? Je remercie le gouvernement de sa réponse.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Monsieur le ministre Jacques Gerber.
Jacques Gerber, ministre en charge de la Santé.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le député, je n'ai pas personnellement connaissance du cas que vous mentionnez. Si vous vouliez une réponse spécifique par rapport à votre cas, peut-être eût-il fallu m'en informer au préalable. Ceci étant, nous suivons, depuis l'externalisation de la CASU, nous suivons l'efficacité des mesures qui ont été mises sur place.
et nous pouvons vous garantir qu'il y a une amélioration de la prise en charge depuis que nous l'avons externalisée. Il y a certes toujours des cas particuliers qu'il faut analyser avec prudence. Je ne peux pas le faire si les informations ne me sont pas données. Un cas similaire m'avait été mentionné sur Port-Autruy. Après avoir analysé la situation, il semble que ce cas sur Port-Autruy n'était pas aussi alarmiste que les gens qui m'avaient intervenu voulaient bien le laisser croire. Donc, globalement, nous sommes satisfaits avec la prestation de la CASU 144 et la prise en charge des citoyennes et des citoyens jurassiens avec le nouveau modèle qui a été accepté l'année passée. Nous sommes actuellement, et vous le savez, en train de réfléchir à un nouveau concept de prise en charge au niveau de l'urgence par rapport à l'hôpital du Jura. Le Parlement sera nanti d'une modification de base légale pour autoriser ce nouveau concept et sa mise en place. Celui-ci devrait certes encore améliorer la situation, mais je peux rassurer les citoyennes et les citoyens que le système de prise en charge au niveau des urgences fonctionne très bien dans la République et canton du Jura.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Lionel Montavon est partiellement satisfait. Pour la 9e question orale, Madame la députée Géraldine Beuchat, vous avez la parole.
Géraldine Beuchat, députée PCSI de Glovelier.
Madame la Présidente, chers collègues, Madame et Messieurs les ministres, être bon élève n'est pas toujours payant. En effet, les communes qui se sont mouillées pour une mise en œuvre rapide de la nouvelle loi cantonale sur la gestion des eaux se retrouvent le bec dans l'eau. Une nouvelle recommandation fédérale en matière de calcul des taxes a poussé le canton à faire ralentir les processus en cours dans les communes. Ce qui, en soi, est compréhensible, mais ce qui peut avoir des conséquences fâcheuses. Pour les communes dont les règlements viennent d'être finalisés, quelles seront les conséquences et de quelle manière doivent-elles appréhender cette nouvelle donne émanant de la Confédération ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci, Madame la députée. Pour la réponse du gouvernement, Monsieur le ministre David Herret.
Voilà, Madame la députée, je dirais tout d'abord que d'être bon élève, c'est toujours payant. Ça, en guise de préambule. Mais votre question est effectivement pertinente, puisque la loi sur la gestion des eaux a été donc établie sur la base de réglementations fédérales existantes. Et maintenant que les communes font le travail, certaines l'ont déjà terminé d'ailleurs, on peut même les féliciter, maintenant que ce travail est terminé, donc, il y a donc une nouvelle recommandation suisse qui est en cours d'élaboration. Monsieur Prix s'est invité dans la discussion, donc il y a une sorte de flou artistique pour savoir est-ce que ce que nous faisions jusqu'à maintenant restera valable ou pas. Et c'est pourquoi donc, l'Office de l'Environnement et le délégué aux communes ont écrit aux communes pour leur demander, pour celles qui sont en train de faire le travail, de mettre le travail un petit peu au ralenti et d'attendre quelques mois pour avoir un horizon plus clair au niveau des directives suisses, également au niveau de M. Prix qui a édicté, lui, ses propres directives. Par contre, effectivement, certaines communes sont à bout touchant et sont donc sur le point de mettre en œuvre la nouvelle LGO, la loi sur la gestion des eaux. Et pour ces communes-là, je dirais qu'il est peut-être judicieux de prendre contact rapidement avec le délégué aux affaires communales ou l'Office de l'environnement, ou les deux, pour voir comment ces communes peuvent finaliser le travail ou pas. Et pour les communes qui ont terminé le travail, il y en a en tout cas une que je connais, là, alors on peut dire que le travail réalisé n'est pas perdu. Il faut maintenant conserver les acquis, continuer la mise en œuvre de ce qui a été réalisé. Et bien évidemment que nous restons attentifs et peut-être qu'il y aura des adaptations à faire en fonction de la nouvelle directive qui est en cours au niveau suisse, mais peut-être qu'elle sera similaire à l'ancienne et qu'il ne faudra rien changer. Donc on est un peu dans une période floue, donc il m'est difficile de vous répondre clairement à votre question, Madame la députée.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Madame la députée ? Madame la députée Géraldine Beuchat est satisfaite. Pour la 10e question orale, je passe la parole à Monsieur le député Christophe Terrier.
Christophe Terrier, député des Verts et CSPOP.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, la semaine passée, nous avons eu droit à la grand-messe du WEF, du Forum économique mondial, où des chefs d'entreprise s'évertuent à libérer l'économie de ses entraves étatiques et des chefs d'État à protéger ce qu'ils peuvent du méfait de la libéralisation économique. Bref, c'est à plus rien y comprendre. Le tapis rouge a été déployé pour Trump et les coûts de sécurité ont explosé. Pour l'édition 2018, plus de 9,5 millions à la charge du WEF, de la Confédération, du canton des Grisons et de la commune de Davos. On sait que des contrats entre corps de police ou entre cantons ou cours, ou que des accords au sein de concordats policiers sont en vigueur, ce qui implique que des policiers jurassiens peuvent être engagés pour la sécurité du WEF. D'ailleurs, certaines interventions parlementaires en 2004 et en 2007 avaient pour objectif de faire cesser l'envoi de policiers jurassiens à ce raout hivernal, sans succès. Je ne sais pas si cette année, des policiers jurassiens ont eu le plaisir de se rendre au WEF, mais si tel avait été le cas, le canton aurait pu recevoir un dédommagement de 600 francs par policier et par jour, ce qui, selon les propos de M. le ministre Juillard relatés au Journal des débats en 2007, en réponse aux interventions auxquelles je faisais référence, était suffisant pour que les collectivités autres que Grisons évitent de mettre la main au porte-monnaie. Ces 600 francs sont le résultat d'une clé de répartition lors de participations policières intercantonales, mais apparemment, ce dédommagement est jugé insuffisant à entendre le porte-parole de la police solervoise, M. Andreas Mock, à propos du WEF 2014. Selon M. Mock, le WEF 2014 a coûté de l'argent aux contribuables solerois. Ma question est la suivante. Le WEF 2018 a-t-il coûté ou aurait-il pu coûter aux contribuables jurassiens ? Merci de votre réponse.
Merci, Monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à Madame la ministre Nathalie Barthoulot.
Nathalie Barthoulot, ministre en charge du département de l'Intérieur.
Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, bien évidemment, l'organisation d'un événement tel que le WEF nécessite évidemment une collaboration des différents corps de police des cantons. Et il serait illusoire d'imaginer que l'organisateur de cet événement, dont on peut apprécier la pertinence à divers degrés, organise cela de manière indépendante. Comme vous l'avez très justement relevé, chaque canton participe et met à disposition un certain nombre de policiers qui dépend en fait de la population du canton et bien évidemment de la grandeur du corps de police. Pour cette édition, le canton du Jura a mis à disposition 6 agents. Comme vous l'avez aussi mentionné, les cantons sont rétribués selon la convention ICAPOL qui fixe toujours la rétribution à 600 francs par jour par agent mis à disposition. Les repas et l'hébergement des policiers sont pris en charge par l'organisateur du WEF, donc il n'y a pas de surcoût par rapport à cela. Donc peut-être encore indiquer aussi que la participation à une telle organisation est appréciée des corps de police parce que cela permet de faire de la formation continue, cela donne aussi des expériences supplémentaires, que ce soit en matière de protection d'objets ou de personnalité. Et puis finalement, comme l'avait déjà indiqué mon collègue Charles Juillard, je ne saurais que confirmer les propos qu'il a tenus en 2007 en disant que les coûts qui nous sont versés par la Confédération couvrent largement les coûts engendrés par la participation au WEF des agents de la police cantonale jurassienne.
Merci Madame la Ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Christophe Terrier est satisfait. Pour la 11e question, je passe la parole à Monsieur le député Ami Lièvre.
Ami Lièvre, député suppléant de Courtemèche.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, la question de l'utilisation du Roundup est d'actualité. Elle fait d'ailleurs aujourd'hui l'objet de 2 points de l'ordre du jour et nous l'avons vu tout à l'heure également d'une petite manifestation devant le Parlement. Dans ce contexte, mais plus largement, il y a quelques semaines, la Confédération a mis en consultation une révision de l'ordonnance sur la protection des eaux dans laquelle elle propose de revoir les concentrations minimales admises dans les eaux de surface de plus de 50 substances problématiques pour la santé et pour l'environnement, telles que des résidus médicamenteux et des pesticides. Parmi ces substances, certaines, telles que les pyréthrinoïdes, utilisées notamment dans le traitement du bois, sont jugées tellement toxiques que les traces admises dans les eaux seront encore diminuées drastiquement, ce qu'il faut saluer. Pour d'autres pesticides, en revanche, notamment le glyphosate, substance active du Roundup, des concentrations plus de 1000 fois supérieures aux doses actuellement admises seront tolérées, peut-être en raison de l'influence de certains lobbies. Une telle décision serait un signal plutôt négatif, sachant que la même confédération a récemment alerté les cantons sur le fait que les cours d'eau suisses contiennent en général trop de résidus de différents pesticides et qu'il convient donc d'agir. Je ne sais pas si le gouvernement ou l'un de ses services a déjà répondu à cette consultation et s'il a un point de vue sur cette question, auquel cas je souhaiterais évidemment en connaître la teneur.
Merci. Pour la réponse du gouvernement, la parole à Monsieur le ministre David Herret.
Monsieur le député, effectivement, vous avez tout à fait raison. Le Conseil fédéral a mis en consultation une ordonnance, mais surtout son annexe qui contient la liste des produits avec le taux, le seuil admissible maximal pour les rivières. En général, le Parlement, d'une manière générale, le Parlement peut se saisir de la réponse du gouvernement à une consultation. Mais cela se fait en général pour des sujets d'importance cantonale ou des grands enjeux. Et là, il y a eu, je ne vous cache pas qu'il y a eu une discussion au bureau du Parlement par rapport à cette ordonnance, pas pour que le Parlement s'en saisisse ou se saisisse de la réponse, mais le Parlement, ou en tout cas certains membres du bureau, souhaitaient connaître un petit peu la manière dont le gouvernement allait y répondre. Donc il a été proposé au bureau du Parlement de donner quelques explications à la Commission de l'environnement et de l'équipement, pour que cette commission puisse un petit peu connaître les enjeux de cette consultation et ce que ça voulait dire. Ça a été fait lors de la dernière commission de l'environnement et de l'équipement, où donc il a été expliqué un petit peu les paramètres, c'est un peu ce que vous avez dit. Donc certaines substances vont être diminuées, d'autres vont être augmentées. Et pour le glyphosate, on arrive, semble-t-il, à 1200 fois plus qu'actuellement, sachant que la norme actuelle serait, selon ce qu'on m'a donné comme information, à 0,1 microgramme par litre. Donc ça veut dire très peu, et on passe à 1200 fois très peu, donc c'est beaucoup plus. Mais est-ce que ça reste beaucoup ou peu? Moi, j'ai de la peine à le mesurer. Mais selon les informations que j'ai reçues de l'Office de l'environnement qui travaille sur la réponse qui sera proposée au gouvernement, il semble que certaines propositions de cette annexe seront revues différemment par l'Office ou proposées au gouvernement pour qu'on ait des valeurs différentes, certainement moins hautes pour certaines substances. Et il faut aussi savoir que toutes les substances chimiques de la planète qui existent ne sont pas sur cette liste, puisqu'il n'y en a qu'une cinquantaine. Donc pour les autres qui ne sont pas sur la liste, on resterait au seuil de 0,1 microgramme par litre. Ce qui peut aussi être dangereux, parce que ça peut être beaucoup pour certaines substances inexistantes ou inconnues aujourd'hui, qui peut-être demain seront mises sur le marché sous une forme ou une autre. Donc on voit que c'est aussi une thématique qui évolue et pour laquelle il faut rester attentif. Ce que semble faire le Conseil fédéral, on peut le saluer. Et après, il faut voir maintenant où on met la limite et, si possible, la mettre à un niveau qui ne soit pas trop préjudiciable à l'environnement et à l'être humain.
Merci, Monsieur le ministre. Votre appréciation, Monsieur le député ? Monsieur le député Amy Lièvre est satisfait. Pour la 12e question orale, Monsieur le député Alain Schwein-Grubert, vous avez la parole.
Alain Schwein-Grubert, qui est donc député PLR et qui va poser la prochaine question.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, Sale, on trouve ça bientôt dans toutes les vitrines des grands commerces du Jura. En français, ça s'écrit ou ça se lit sale, c'est moche. En anglais, c'est idiot. Une grande surface de la capitale avant les fêtes de Noël invitait sa clientèle à venir chercher sa Christmas card. Un autre commerce dans la même rue, d'ailleurs, de la capitale, annonçait sa prochaine ouverture avec une grande pancarte « New Opening ». C'est ridicule, ça agace tout le monde, ça ne sert à rien. Si les Uriquois veulent parler l'anglais, c'est leur problème. Dans le Jura, on n'est pas obligé de suivre la même voie. Nous avons, dans le Jura, une loi sur la langue française, sur l'usage de langue française. Certains cantons romans nous l'ont d'ailleurs envié et recopié. Je pense qu'il faudrait en faire usage. Il faudrait en faire usage, d'autant plus que, cerise sur le gâteau, les BKV, du doux nom Bernische Kraftwerke, envoient de plus en plus leurs factures en allemand aux citoyens jurassiens. Je crois que c'est le moment maintenant d'intervenir et d'utiliser notre loi qui, en son article 1, prévoit que l'État promeut la langue française et l'une des dispositions de l'article 9 de cette même loi indique que le canton, l'État, peut intervenir par des recommandations auprès de ces commerces qui utilisent abusivement et finalement de manière totalement inutile mais agaçante des anglicismes. Cette loi n'est pas contraignante, mais il faut au moins l'utiliser. Je demande donc au gouvernement s'il est prêt à faire des démarches ponctuelles, ciblées dans ces commerces qui utilisent abusivement ces anglicismes et cas échéant, et s'il l'a déjà fait, d'augmenter encore ces recommandations. Je vous remercie.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre Martial Courtais.
Martial Courtais, ministre de la Formation et de la Culture.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, effectivement, cette question de l'usage des anglicismes dans les commerces jurassiens, et particulièrement à cette époque des soldes, où à l'époque, en décembre, vous y faisiez allusion d'un vendredi noir, pour ne pas utiliser un autre terme, est une question récurrente. Donc, monsieur le député, vous avez raison de vous en soucier. Sachez que le gouvernement s'en soucie également en vertu de la loi à laquelle vous avez fait référence. Je souhaiterais rappeler peut-être qu'il y a 5 ans, jour pour jour, donc en 2013, le 30 janvier, une question orale du même acabit avait été posée, que le gouvernement avait proposé qu'une disposition dans le but de privilégier l'usage de la langue française dans les commerces soit étudiée dans le cadre de la révision de la loi sur les activités économiques. Après une étude au sein de l'administration, l'introduction de mesures coercitives n'avait pas été retenue, en l'argument étant que la compatibilité d'une telle disposition avec la liberté de commerce avait donc été relevée majeure. Depuis qu'il a été institué donc en 2011, le Conseil de la langue française de la République et du canton du Jura a traité plus d'une fois donc cette question des anglicismes. Le constat est le suivant. Malheureusement, ceux qui protestent, comme vous le suggérez de façon pertinente, ceux qui protestent contre les anglicismes ont tendance à passer pour des rabat-joie et donc, quelque part, et c'est leur conclusion, de finalement desservir la cause. Leur approche est donc différente. Le défi auquel ils sont confrontés et sont confrontés les amoureux de la langue française est donc d'agir en trouvant la bonne méthode, la bonne manière et des stratégies indirectes ou parfois en utilisant l'humour également, se révèle plus efficace que des stratégies directes, voire contraignantes. Et on peut affirmer que c'est dans cet état d'esprit que le Conseil de la langue française réfléchit actuellement à des actions concrètes. Merci de votre attention.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Alain Schweingruber est satisfait. Pour la 13e question orale, je passe la parole à monsieur le député Yves Gigon.
Yves Gigon, donc anciennement député PDC, qui siège aujourd'hui en tant qu'indépendant.
Madame la Présidente, Madame, Messieurs les Ministres, chers collègues, dans l'affaire que nous connaissons, le tribunal cantonal s'est arrogé le droit de communiquer à tout va au bureau du Parlement et à la presse sur des problèmes purement professionnels et privés. Dans le même ordre d'idée, est-ce que les fonctionnaires employés de l'État, notamment du service des contributions, seraient-ils autorisés à rompre le secret de fonction pour signaler, notamment au bureau du Parlement ou à la presse, des problèmes qu'il pourrait y avoir pour des députés qui souhaitent pourvoir des postes de président du Parlement, de président de commission ou autre. Par exemple, pour signaler des députés qui auraient violé la loi d'impôt. Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci. Pour la réponse du gouvernement, la parole à monsieur le ministre Charles Juillard.
Charles Juillard, ministre en charge.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, la loi est la même pour tout le monde, les députés, les magistrats, les fonctionnaires. Et si celle-ci est violée, ben la loi s'applique à tout le monde. Et tout celui qui se sentirait lésé par une application défaillante de la loi ont toute compétence pour utiliser toutes les procédures qui sont mises à leur disposition pour s'en plaindre auprès des autorités agréées et reconnues par l'état de droit auquel tout député participe. À ma connaissance, et heureusement, je n'ai pas connaissance que des employés du service des contributions aient violé la loi en utilisant des données qu'ils auraient éventuellement obtenues dans l'illégalité. Pour le reste, eh bien, je vous renvoie aux différentes dispositions du recueil systématique jurassien, du code de procédure pénale suisse et du code pénal suisse que vous connaissez toutes et tous.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Yves Gigon n'est pas satisfait. Pour la 14e question orale, je passe la parole à monsieur le député Jean Leuenberger.
Jean Leuenberger, représentant donc de l'UDC, élu de Mauvelier.
Madame la Présidente, chers collègues, madame et monsieur les ministres, des bisons d'Europe en liberté dans les forêts du Jura. J'ai été interpellé sur ce sujet étonnant que je n'avais même pas connaissance. Après quelques recherches, j'ai constaté que c'est bel et bien le projet fou d'un agriculteur bio et de l'association Vision Imtal de pouvoir mettre des bisons d'Europe à l'état sauvage dans la région de Welchenrohr. L'idée est de créer un enclos provisoire de 10 hectares. Après 2 ans d'acclimatation dans cet espace, ces mammifères seraient ensuite libérés dans la nature. Welchenrohr, à la frontière du Jura, est à moins de 5 km à vol d'oiseau. C'est-à-dire que le jour où ces ruminants seront amenés à être lâchés en liberté, il leur faudra peu de temps pour arriver sur le territoire jurassien. Sachant que ce bovidé peut peser de 500 à 1000 kg selon son âge, les dégâts dans les cultures et les forêts seraient considérables. Ma question, est-ce que le gouvernement a déjà pris connaissance de ce projet et des conséquences que pourrait engendrer la mise en liberté de tels ruminants ? Je remercie le gouvernement pour sa réponse.
Merci. Pour la réponse du gouvernement, je passe la parole à monsieur le ministre David Herret.
David Herret, ministre en charge de l'Environnement.
Non, monsieur le député, nous n'avons pas été informés de cette nouvelle volonté de lâcher des bisons sauvages en liberté à notre frontière. Par contre, si c'est le cas, effectivement, nous devrons non seulement voir avec le partenaire, le canton voisin, selon quelle modalité ce sera fait, et puis éventuellement voir aussi avec nos chasseurs jurassiens s'ils ont les armes nécessaires pour abattre ces bisons dans les forêts.
Merci, monsieur le ministre. Votre appréciation, monsieur le député ? Monsieur le député Jean Leuenberger est satisfait. Pour la 15e question orale, monsieur le député Pierre-Louis Fedele, vous avez la parole.
Pierre-Louis Fedele, député Vert et CS Pop de Delémont.
Présidente, mesdames, messieurs, la récente et discrète nomination à la fonction d'adjoint à la chef de service d'un collaborateur de l'Office de la Culture soulève plusieurs questions. L'exercice de la question orale ne permettant pas l'exhaustivité souhaitée, je n'adresserai donc à la fin de mon intervention qu'une seule, la fameuse et unique question au gouvernement. Pour le surplus, je me contenterai d'aborder des questionnements pour lesquels je ne demande aucune réponse gouvernementale, mais qui sont l'objet même de mon développement. La création de cette fonction d'adjoint de chef de l'office répond à quel impératif ? Le besoin d'une telle fonction est-il avéré ? Est-ce que toutes les règles explicites et implicites concernant les nominations de ce genre ont été respectées ? Si tel est le cas, que fait le gouvernement des nombreuses interventions de ce Parlement allant toutes dans le même sens, celui de plus de transparence dans ses procédures ? Certaines de ces interventions sont d'ailleurs encore en traitement, on peut imaginer le sort qui leur sera réservé. Enfin, et cette interrogation n'est pas des moindres, on peut estimer la progression salariale de la personne concernée à un minimum de 10 000 francs par année. N'est-ce pas excessif en des temps où des sacrifices sont demandés à tous pour une fonction dont l'utilité est toute à démontrer ? Toutes ces questions pour lesquelles je ne demande pas de réponse gouvernementale m'amènent à poser la question, la fameuse et unique question au gouvernement. Malgré les contraintes toutes relatives, légales ou réglementaires qu'elles soient, le gouvernement ne considère-t-il pas qu'un soupçon de transparence et une communication adaptée auraient pu être de mise dans cette nomination, ne serait-ce que pour limiter les questionnements de tout genre qui ne manquent pas d'apparaître, preuve en étant faite à l'instant. Merci de votre réponse.
Merci, monsieur le député. Pour la réponse du gouvernement, monsieur le ministre, Martial Courtet.
Madame la Présidente, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, on est en hésitation entre RH et culture, alors on va essayer de vous donner quand même quelques informations sur ce sujet, même si vous ne posez effectivement qu'une question, mais comme vous en avez évoqué plusieurs, peut-être pourrais-je essayer d'éclaircir ceci. Transparence, c'est peut-être le point le plus important. D'autres services, il n'y a pas si longtemps que cela, et des services d'ailleurs relativement importants, on nommait des adjoints et, le cas échéant, en bilatéral, je peux vous donner tout à fait les noms de ces services n'ont pas fait de publicité particulière ni de publication. De ce fait, il n'a pas paru nécessaire de le faire dans ce cadre-ci. Préciser quand même ceci, le terme d'adjoint n'est pas une fonction, mais il s'agit d'une tâche particulière. Donc si ce n'est pas une fonction, eh bien, il n'y a pas de raison de mettre au concours ce genre de tâche. Elle est attribuée à l'interne, donc pas de mise au concours, ni à l'interne d'ailleurs, ni public. Peut-être revenir sur la procédure. Ça s'est fait de façon tout à fait habituelle. La proposition émane de la chef de service qui souhaite... la demande émane de la chef de service qui souhaite avoir un tel soutien dans la personne d'un adjoint ou d'une adjointe. Cette personne l'a proposé à son chef de département. Le tout a été remonté, le dossier a été remonté par le service des ressources humaines et passé au gouvernement qui a accepté cette fonction. Donc, vous évoquiez le salaire aussi. Cette fonction donne une classe de plus. Cette tâche donne une classe de plus, ce qui donne au salaire une différence de l'ordre de 300 francs, donc mensuellement. Donc rien de vraiment extrêmement important et nouveau à signaler à ce sujet. La procédure habituelle a été suivie et nous nous réjouissons que la chef de service, qui a énormément de travail dans cet office, puisse bénéficier du soutien d'un tel adjoint. Merci de votre attention.
Merci, Monsieur le Ministre. Votre appréciation, Monsieur le Député. Monsieur le député Pierre-Louis Fedele est partiellement satisfait. Pour la 16e et dernière question orale, je passe la parole à Monsieur le député Jean Bourcard. D'accord. Monsieur Bourcard renonce à sa question vu qu'elle a déjà été posée. Nous avons traité toutes les questions orales et pouvons donc passer au point 4 de notre ordre du jour.
C'est donc la fin de
l'élection d'un membre et d'un remplaçant de la commission de la justice.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces questions orales dans le courant de la journée sur notre site rfj.ch. Bonne journée.